Audiolib présente Du bonheur. Un voyage philosophique de Frédéric Lenoir. Lu par Laurent Jacquet. Prologue. Il faut méditer sur ce qui procure le bonheur, puisque lui présent, nous avons tout, et lui absent, nous faisons tout pour l'avoir. Épicure. Depuis de nombreuses années, j'ai le projet d'écrire un livre sur le bonheur. Depuis de nombreuses années, je ne cesse de remettre ce projet à plus tard. Bien que la recherche du bonheur soit sans doute la chose la mieux partagée au monde, il n'est pas aisé d'écrire à son propos. Comme beaucoup, je suis agacé par l'usage intempestif du mot, en particulier dans les publicités, comme par la pléthore d'ouvrages prétendant livrer des recettes toutes faites du bonheur. À force d'en entendre parler à tort et à travers, la question du bonheur, galvaudée, devient inaudible. Mais derrière cette banalisation et son apparente simplicité, la question demeure passionnante et renvoie à une multitude de facteurs difficiles à démêler. Cela tient notamment à la nature même du bonheur. À certains égards, il est aussi insaisissable que l'eau ou le vent. Dès qu'on pense s'en être emparé, il nous échappe. Si on tente de le retenir, il s'enfuit. Il se dérobe parfois là où on l'espère et surgit à l'improviste au moment le plus inattendu. Il arrive encore qu'on ne le reconnaisse qu'une fois le malheur survenu. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant, écrit joliment Jacques Prévert. Pourtant, j'en ai fait l'expérience. La poursuite du bonheur n'est pas une quête insensée. On peut réellement être plus heureux en réfléchissant sur sa vie, en effectuant un travail sur soi, en apprenant à faire les choix les plus judicieux, ou bien encore en modifiant nos pensées, nos croyances ou les représentations que nous nous faisons de nous-mêmes et du monde. Le grand paradoxe du bonheur, c'est qu'il est aussi indomptable qu'apprivoisable. Il relève tout autant du destin ou de la chance que d'une démarche rationnelle et volontaire. Il y a près de 25 siècles, le philosophe grec Aristote soulignait déjà cette ambiguïté. Il est difficile de savoir si le bonheur est une chose qui peut s'apprendre ou s'il s'acquiert par l'habitude ou quelque autre exercice, ou si enfin il nous échoit en partage par une certaine faveur divine ou même par le hasard. Une autre difficulté tient au caractère éminemment relatif du bonheur. Il varie selon les cultures, les individus et pour chacun selon les phases de la vie. Il prend souvent le visage de ce que nous n'avons pas. Pour un malade, le bonheur est dans la santé. Pour un chômeur, dans le travail. Pour certains célibataires, dans la vie de couple. Et pour certains époux, dans le retour au célibat. À ces disparités s'ajoute une dimension subjective. Un artiste est heureux dans la pratique de son art, un intellectuel dans le maniement des concepts, un sentimental dans la relation amoureuse. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a fort bien éclairé ce point, en soulignant que c'est la constitution psychique de l'individu qui sera décisive. L'être humain chez qui prédomine l'érotisme donnera la priorité aux relations de sentiments avec d'autres personnes. Le narcissique, se contentant plutôt de lui-même, cherchera ses satisfactions essentielles dans ses phénomènes psychiques internes. L'homme d'action restera attaché au monde extérieur sur lequel il peut mettre sa force à l'épreuve. C'est une des raisons pour lesquelles il n'existe pas de recette du bonheur valable pour tous. Toute réflexion philosophique sur le bonheur serait-elle donc vaine? Je n'en crois rien. Si intéressant à souligner et à comprendre soit-il, les caractères insaisissables, relatifs et subjectifs du bonheur n'épuisent pas la question. Il est aussi des lois de la vie et du fonctionnement de l'humain qui l'impactent fortement et que l'on peut appréhender tant par la réflexion philosophique classique que par des approches scientifiques, psychologie, sociologie, biologie, sciences cognitives. Et si le philosophe du XXIe siècle a quelque chose à dire